RCF.
Un parcours qui démarre à Alep, en Syrie, qui continue par le Liban, enfin passe par Paris, puis arrive jusqu'à nous dans le département de la Drôme à Bourg-lès-Valence. Pasteur Agop Koudjikian, vous êtes notre invité sur RCF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir nous raconter ce parcours un peu chaotique. On le voit tout de suite dans l'introduction. Vous, votre page numéro 1, elle commence en Syrie, à Alep, en 1987.
C'est ça. Je suis né dans une famille chrétienne qui pratiquait. Et j'avais deux sœurs avant moi, plus grandes que moi. Et après, j'ai eu une troisième sœur après moi. C'était une famille assez normale, mais on était dans les difficultés financières. C'était pas facile, la vie à Alep, en Syrie. Aujourd'hui, c'est, je pense, plus compliqué encore, malheureusement, en Syrie, avec tout ce qui se passe. Petite famille, on peut dire. C'est pas très nombreux, mais on était attachés les uns aux autres. Et on avait une foi, on pratiquait la foi, on était tous les dimanches à l'église. J'ai grandi comme ça, à l'école de dimanche. Voilà. Quand j'étais enfant aussi, j'ai appris ça que être modeste ou ne pas avoir l'argent, c'est pas nécessairement égal à être triste. On avait beaucoup de besoins, il manquait beaucoup de choses dans notre maison, mais on était content parce que on se respectait mutuellement dans la famille, on s'aimait, on avait cette relation qui dépasse toutes les choses matérielles.
Vous êtes resté 13 ans en Syrie et vous avez déménagé pour aller au Liban dans un espoir de vie meilleure?
En fait, c'était une décision qui venait de mon père. Comme je vous avais dit, c'était notre vie à Alep, c'était assez difficile. À cette époque, les gens qui voulaient avoir une vie un peu plus bien, évoluer, et pour ça, ils partaient au Liban, c'était plus proche. Et ça coûtait pas cher, et il y avait une communauté arménienne. Pour ça, en majorité, les gens qui avaient de difficultés à vivre en Syrie ou à Alep, ils déménageaient au Liban, et c'était une décision que mon père, il a pris. Un jour, il a dit, voilà, on va quitter tout, on va déménager au Liban, et notre but, c'était avoir une vie mieux financièrement, on peut dire.
Alors, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que la vie a été meilleure au Liban? Vous êtes resté 2 ans de plus qu'en Syrie, puisque vous y êtes resté 15 ans au Liban.
Oui. La vie au Liban, oui. Le confort qu'il y avait au Liban, on n'avait pas en Syrie.
Pour comprendre un peu, vous faites partie de la communauté arménienne. Il y a beaucoup d'Arméniens qui sont issus soit de Syrie, soit du Liban. Donc des Arméniens chrétiens. Et d'ailleurs, Agop, ça veut dire Jacques en arménien.
C'est ça. Hein, oui.
C'est ça. Il y a beaucoup d'Arméniens qui viennent de ces deux pays.
Oui, il y a beaucoup parce que si on va voir un peu historiquement, on voit beaucoup des problèmes qui a touché ces deux pays, hein, le Syrie ou le Liban. Et les habitants en Syrie et au Liban, ils étaient obligés à trouver un secours, de partir et de trouver un endroit qui respecte les droits des hommes, mais ils respectent, il y a une vie normale. Et après la guerre au Liban, on voit beaucoup des gens qui sont venus en France parce qu'on sait que le France, il respecte l'être humain, il a des qualités, il a beaucoup de qualités. Peut-être quand je parle et je discute avec les Français avec ces points, ils ne me comprennent pas trop parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays en tant qu'humain que tu n'es pas respecté. Et nous, qu'on vient de Moyen-Orient, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Pour ça, on respecte beaucoup les lois qui sont en France et on aime beaucoup, on est reconnaissant. Je pense, je peux parler de nom tous les émigrants ou les gens qui sont venus de Moyen-Orient, qu'on est reconnaissant à tout ce que le France il nous a donné.
Au niveau scolarité, ça se passe comment pour vous? Est-ce que c'est facile d'aller à l'école dans ces conditions avec des pays qui sont soit avec des cicatrices de guerre comme le Liban, soit un pays un peu instable comme la Syrie?
Ma réponse, ça peut être choquant. Moi, j'ai commencé à travailler pour la première fois quand j'avais 7 ans.
Vraiment travailler pour gagner de l'argent.
Oui, oui. J'ai travaillé quand j'avais 7 ans. L'été, quand mes camarades ou mes amis, ils partaient pour les vacances ou faire d'autres choses, moi, j'étais obligé à aller travailler pour ramener l'argent à la maison.
Qu'est-ce que vous travailliez dans quoi?
Je travaillais de tout, mais mon premier travail à 7 ans, c'était dans une garage qui fait le travail de voiture, en fait. On travaillait comme des mécaniciens ou d'autres. Et moi, j'ai aidé, j'ai nettoyé la garage ou des choses comme ça. Jusqu'à 11 ans, quand j'étais obligé à arrêter l'école pour travailler en plein temps et aider mon père pour gérer la maison.
Oui, à 11 ans, vous n'alliez plus déjà du tout à l'école.
Oui.
Vous avez travaillé dans les voitures à partir de 11 ans ou vous avez fait d'autres choses?
Non, j'ai travaillé dans beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
J'ai travaillé dans les voitures, j'ai travaillé dans les électricités, dans les maisons. Et à la fin, j'ai travaillé dans le bijouterie. Aujourd'hui, peut-être si on va voir le côté positif, je maîtrise 3 différents métiers. Que c'était le bijouterie, j'avais mon business de coiffure au Liban.
Ah, vous faisiez de la coiffure aussi?
Oui, oui, oui.
Ah oui.
Et j'ai travaillé plusieurs choses, même j'ai travaillé dans la radio, je faisais des émissions dans la radio arménienne. Et voilà, je faisais tout que je pouvais gagner ma vie et aider mon père pour gérer la maison.
Donc, voiture, bijouterie, électricité, coiffure.
Oui.
Et c'est pas le métier que vous faites aujourd'hui en plus.
On va
en reparler dans un instant. Vous êtes venu avec 2 pauses musicales. La première pause musicale, c'est Grâce Infinie. Pourquoi?
Oui. En fait, les paroles de cette chanson, il nous dit comment Dieu il peut nous chercher de loin. Et si aujourd'hui je suis le pasteur de l'église évangélique arménienne de Valence, parce que Dieu il m'a cherché de loin, il m'a changé aujourd'hui. C'est ça en fait, c'est ça le but, c'est ça la raison que j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson.
Témoin, quand la foi se raconte.
Toujours dans notre émission sur RCF en compagnie du pasteur Koudjikian, Agop Koudjikian, Jacques, ça, c'est ce que veut dire Agop en français. Et le pasteur vient de nous expliquer un parcours qui part d'Alep en Syrie en 1987 à l'âge de 7 ans et commençait déjà à aider son père à aller travailler dans les garages et puis petit à petit en électricité, puis petit à petit également bijoutier. Puis il a aussi eu un business de coiffure, il était coiffeur à cette époque-là. Vous avez accepté Jésus, vous dites, à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais quand un jour j'étais dans l'église, il y avait un appel pour les gens qui ne croyaient pas ou ils ne pratiquaient pas, et qu'ils voulaient vraiment prendre cette décision pour donner leur cœur à Jésus. Et moi j'étais là, j'ai levé mes mains et j'ai dit oui, j'aime bien accepter Jésus. C'était le premier pas en tant qu'enfant, que j'ai dit oui, je veux accepter Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Mais c'était une décision plutôt comme une décision d'enfant. C'était pas vraiment sérieux parce qu'après ce que j'ai vécu, c'était très loin d'être chrétien. J'ai passé par des endroits que c'était pas bien, c'était pas correct. Oui, c'est vrai que j'ai arrêté mes écoles.
Oui, à 11 ans, vous n'alliez plus à l'école.
Oui.
Et pourtant, vous allez quand même publier de livres.
Oui, parce que j'ai pas allé à l'école parce que j'étais obligé de ne pas aller, mais c'est pas dire que j'aimais pas lire ou écrire ou m'avancer.
Qu'est-ce qu'il raconte, ces romans?
Les premiers romans, c'était, il parle d'une couple amoureux arménienne. Voilà, c'était ça. Les deuxièmes, c'était plutôt les familles arméniennes. Comment, c'est quoi la différence entre les villages, entre les grandes villes? C'était un peu peut-être l'expérience que j'ai vécue dans ma vie aussi. J'ai voulu transmettre et partager aussi avec les autres.
Un roman d'amour pour le premier, un roman un peu autobiographique sur la différence entre le monde rural et le monde de la ville pour le second.
On peut dire, oui.
Avec les traditions arméniennes. Donc vous, en 2015, avec vos deux livres sous le bras, vous quittez le Liban pour rejoindre la France. L'Europe dans un premier temps, vous étiez attiré par l'Europe. Vous ne saviez pas trop si ça allait être la France, j'imagine.
Oui, oui, je ne savais pas. En fait, c'était le moment où j'ai avancé assez bien dans mon business au Liban et j'ai vu que c'est, en tant que Syrien au Liban, je pouvais pas avancer plus. J'ai pris la décision de déménager à un autre endroit, un autre pays. Pour ça, le premier endroit que je suis allé, c'était l'Arménie. Et après 3 mois, j'ai décidé que je peux pas continuer à vivre en Arménie parce qu'il y a beaucoup de différences de culture, des manières de travail. Et là, j'ai décidé d'aller en Suède. Ma but, c'était aller en Suède parce que ma grande sœur, elle était en Suède pour aller rejoindre elle. Je sais qu'il y a quelqu'un qu'elle peut être à côté de moi. Comment aller en Suède en tant que Syrien? C'est impossible d'obtenir un visa. J'ai trouvé une monsieur qui peut m'aider, si on peut dire. Et c'est lui qui m'a pris et il m'a amené à Paris. Parce que la route, il était fermé et il pouvait m'amener que à Paris. Et moi, j'ai accepté parce que j'ai dit, OK, après, je peux continuer aller de France en Suède. Et parce que j'ai rentré illégalement en France, j'étais amené par la police pour me demander je suis qui, comment je viens. Et quand ils ont vérifié tous mes documents, ils ont vu que je suis syrien. Et en cette époque, c'était les portes ouvertes de l'Europe pour les Syriens, en sachant qu'il y a une guerre. Et la proposition de police ou l'explication qu'ils m'ont donnée, ils m'ont dit que oui, tu es aujourd'hui en France, tu peux rester en France si tu veux, parce que c'est ça la loi européenne, que tu dois rester dans le premier pays européen que tu arrives. Et moi là, j'ai refusé parce que dans mon plan, c'était aller en Suède, parce que j'ai refusé, la procédure, c'était aller dans une prison, plutôt dans un centre rédemption. Et j'ai resté là-bas pendant 19 jours à peu près. Et dans ces 19 jours que j'ai eu 3 différents jugements, et à la fin, les juges ils ont décidé que je peux être libre. Et c'était là que j'ai eu vraiment mon conversion, si vous voulez.
Alors que vous avez dit oui à Jésus à l'âge de 10 ans et qu'après il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie, vous avez fait plein de métiers, vous avez dit « je me suis même retrouvé des fois dans des situations qui n'étaient pas bien, pas bonnes pour moi
oui. ».
Malgré le fait que vous ayez dit oui à Jésus à 10 ans, c'est pas pour ça que ça a changé toute votre vie. Par contre, ce jour-là, quand vous êtes en centre de détention, quelque chose se passe.
Oui. En fait, quand j'étais là-bas, je veux dire, prison, pour moi, c'est la même définition. C'est une prison qu'on peut pas sortir quand on veut. Il y a une règle. Et dans cette prison, j'étais en train de réfléchir pourquoi je suis là et il est où Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à prier parce que c'était le moment dans cette prison, dans mon chambre, quand j'étais dans ma lit, j'ai commencé à réfléchir pourquoi je suis là, pourquoi... je suis pas libre. J'ai passé deux jugements déjà et le juge, il refuse de me libérer. Et je vois d'autres qui sont libérés après 3 jours ou après 5 jours. Et avec toutes ces pensées, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté que je veux rester en France, je veux rester, si c'est ta volonté. Et c'est le moment que je peux dire que je m'abandonnais dans les bras de Dieu. J'ai demandé le pardon et j'ai dit, voilà, je suis là et dis-moi ce que tu veux que je fasse.
Et à ce moment-là, on a fini par vous libérer ?
J'étais libéré. Et quand j'étais libéré, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire parce que je ne connais personne. En France, je ne parle pas le français et je ne comprends pas le français. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller où ? Mais je peux dire que Dieu il m'a guidé pour aller à Marseille dans ce moment-là. Je ne connaissais personne à Marseille. Mais je suis allé, j'ai pris le train, j'ai descendu et j'ai trouvé une église arménienne qui m'a accueilli à Marseille. Et c'était là-bas que petit à petit j'ai approché plus à Dieu et j'ai reçu mon appel pour devenir pasteur.
Cet appel, et là il faut reprendre les études.
Oui, oui.
Comment vous l'avez reçu cet appel ? C'est-à-dire comment il s'est concrétisé ? Comment vous vous êtes dit, ah ben voilà, c'est ça qu'il veut que je fasse ?
Je sentais, de la moment de prière dans la prison, je sentais que Dieu, il prépare quelque chose de spécial pour moi. Et je sentais que ça ne doit pas continuer ma vie comme il était. Il y avait des pensées que pourquoi, c'est quoi le but, c'est quoi le désir de Dieu que je fasse dans ma vie. Et jusqu'à le 9 mois de prière, il y avait des gens qui m'approchaient, qui a prié pour moi. Et je trouvais plusieurs fois en lisant la Bible, qu'il y a des passages que Dieu, il appelle des gens pour tourner vers lui et il appelle pour devenir, si on peut dire, des bergers comme il est le bon berger. L'évangile de Jean, et c'était cet moment, c'était le dernier point quand j'ai dit, j'ai senti en fait l'Esprit de Dieu qu'il me donne ce désir plus dans mon cœur.
Vous êtes venu avec une deuxième pause musicale, « Comment ne pas te louer ?» Ça fait une transition avec ce que vous étiez en train de dire. Pourquoi cette chanson ?
En fait, comment ne pas louer Dieu avec tout ce que j'ai vécu ? C'est ça, simplement. On voit Dieu, comment il change les vies. On voit comment Dieu il est présent dans notre vie. Et la simple chose qu'on peut faire, c'est louer Dieu.
La foi se raconte dans Témoin.
Toujours sur RCF, en compagnie du pasteur Agop Koudjikian, qui nous raconte son parcours depuis la ville d'Alep en 1987, où il est né. Il vit 13 ans à Alep, en Syrie, et puis il se retrouve ensuite pendant 15 ans au Liban. Il passe par plusieurs métiers, il abandonne, ou plutôt les études l'abandonnent à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire qu'il n'a plus pu continuer d'aller en scolarité. Il fallait qu'il aille travailler pour aider son père et pour ramener l'argent suffisant à la maison. Cela n'empêche pas de l'écrire deux livres. En 2015, il arrive en France où il se fait attraper parce qu'il n'a pas de papier. Il est dans un centre de détention. Et dans ce centre-là, il sent que Dieu prépare quelque chose de spécial pour lui et il décide de changer et de rester en France. Un an après, alors qu'il est à Marseille, il reçoit un peu la réponse à ses prières. Dieu l'appelle pour être pasteur. C'est là que vous commencez vos études de théologie. Je voudrais juste revenir sur une petite chose. Vous nous avez dit que vous aviez des sœurs, dont une qui était en Suède. Aujourd'hui, où sont vos sœurs ?
J'ai trois sœurs aujourd'hui. La grande, elle est en Suède. La deuxième, elle est au Liban. Et la troisième, elle est en Arménie.
C'est quand même aussi une des conséquences de ces problèmes de changer de pays, de vouloir changer parce que il y a la guerre, il y a des choses qu'on fuit. Et du coup, les familles se retrouvent éclatées.
Oui. Oui.
Aujourd'hui, vous arrivez à les voir encore ?
On essaie à se voir une fois par an, mais c'est de temps en temps compliqué de trouver les mêmes jours des vacances et d'aller. C'est que c'est compliqué. Toutes les familles qui sont quittées leur pays, que ce soit Liban, Syrie ou d'autres, qu'il y avait la guerre, je pense que c'est la même situation malheureusement. La guerre, il détruit beaucoup de choses.
Si vous regardez un peu la situation, aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'Arménie ces derniers temps. Même si ce n'est pas un pays dans lequel vous avez habité, vous faites partie de la communauté arménienne. Il y a aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec, on a l'impression parfois, des migrants qui ne sont pas tous logés sur un pied d'égalité. Vous êtes passé par là. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça ?
En fait, la guerre, c'est quelque chose vraiment très mauvais et c'est très horrible. On voit les gens qui mourent parce que ils sont juste dans cet pays. On a vécu, en tant que les Arméniens, les génocides déjà, c'était assez lourd à porter. Après quelques années, on a vécu plusieurs fois des déportations. Et je pense, dernièrement, ce qu'on a vécu, c'était une sorte de génocide aussi, à Artsakh, au Haut-Karabakh. C'était compliqué, c'était difficile. Il y a 120 000 personnes qui étaient obligées à quitter leur maison, leur église. Il y a des églises qui sont fermées. Il y a des églises aujourd'hui qui sont en train de démolir pour laisser pas les traces qu'ils avaient un jour ici, des Arméniens, qu'ils étaient chrétiens, qu'ils avaient des églises. Je peux être très émotionnel avec ce sujet. Mais ce que je peux dire, ce qu'on vit aujourd'hui, les Arméniennes, c'est très, très, très difficile. Mais encore une fois, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant aux Français, aux nos amis qui sont toujours là. Mais on prie que personne, il voit les choses qu'on a vécues. Il vit les choses qu'on a vécues en tant que des Arméniennes.
Vous êtes à la fois dans la souffrance et à la fois dans la reconnaissance.
Oui.
2016, donc, vous recevez cet appel pour devenir pasteur et vous reprenez les études et le chemin donc de l'Institut biblique de Nogent.
Oui, c'est ça.
Combien de temps il faut pour devenir pasteur ?
C'est le minimum 3 ans. Il faut faire une étude théologique, grâce à Dieu, avec beaucoup de difficultés. J'ai pris mon diplôme de l'Institut biblique de Nogent. Parce que c'était pas évident pour quelqu'un qui maîtrise pas la langue. J'ai resté beaucoup des nuits sans dormir, mais...
Et à étudier.
À étudier, mais ça va, grâce à Dieu.
Juste après, c'est là que vous mariez.
Quand j'ai commencé mes études, c'était juste quelques mois avant que je me suis marié. En Arménie, et après 3 mois, je devais quitter ma femme et venir à Paris pour faire mes études. Et pendant 2 ans, j'étais seul, et j'ai fait le voyage Arménie-Paris pour voir un peu ma famille et retourner pour faire les études. Les études aussi, c'était un peu difficile, mais ça va. Parce que la première année, il y avait mon fils qui est né, mais j'ai pas pu aller voir parce que c'était le Covid, tout était fermé. J'ai vu mon fils après la naissance de 50 jours. Après deuxième année, j'ai perdu mon père. Et troisième année, c'était assez compliqué financièrement. Mais avec tout ça, Dieu fait, il a fait grâce pour j'ai réussi et je prends mon diplôme.
Et vous avez eu un deuxième enfant depuis.
J'ai un deuxième enfant, oui. J'ai une fille, j'ai un garçon.
Aujourd'hui, votre femme et vos enfants sont avec vous?
Oui, oui.
Puisque vous avez accepté en 2022 de devenir pasteur pour l'église évangélique arménienne.
Oui, c'est ça, de Valence.
De Valence. Mm. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé donc à Bourg-les-Valence, qui est juste à côté de...
Oui.
De Valence. Alors, vous êtes pasteur de l'église évangélique arménienne, donc qui dit pasteur dit vous avez des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont des problèmes, elles ont des situations à régler, elles viennent voir le pasteur Agop Koudjikian, aidez-moi pasteur dans telle ou telle situation, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et vous, par rapport à votre parcours et par rapport à tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve, quels sont les conseils que vous pourriez donner justement à soit vos paroissiens, soit ceux qui écoutent cette émission, ou des personnes qui peut-être traversent actuellement des passages difficiles, où on remet tout en question, où on se dit « où est Dieu dans tout ça ?» Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil?
En fait, ça dépend de la situation, parce qu'il y a des gens, chaque personne il a un problème différent. Les problèmes ils sont pas pareils, mais peut-être il y a deux choses essentielles que je peux dire pour tout le monde qui a un problème, qui traverse dans les moments difficiles. La première chose, c'est la patience. Fais la patience et en même temps, la deuxième chose, fais la confiance à Dieu. En fait, si on fait confiance à Dieu, ça veut dire on sait que Dieu, en son temps, il va faire la bonne chose pour nous. Parce que la Bible, il nous dit que Dieu, il fait toutes les bonnes choses pour les gens qui aiment Dieu. Et en sachant ça, il faut... Même dans les difficultés, quand je parle ça, je parle parce que j'ai vécu dans les difficultés. Si on croit en Dieu, si on fait confiance à lui, si on a la patience, Dieu, il va faire les bonnes choses dans le bon moment. De temps en temps, nous, en tant qu'humains, on n'est pas, on est pressé. On veut les choses comme on veut et quand on veut. Mais ça marche pas comme ça. Si on est chrétien, si on croit en Dieu, si on a la confiance en Dieu, il faut vraiment que ça soit toujours et plus quand c'est difficile.
Pour terminer cette émission, pasteur Agop Koudjikian, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui fait que malgré parfois un agenda très chargé, vous allez pouvoir retrouver la bonne humeur, la joie, donner un peu de joie à tous ceux que vous allez croiser?
En fait, ce que je partage en général, c'est que ce que m'aide aussi de me lever et avoir le courage de continuer dans ma vie, j'ai dit à mes paroissiens aussi, à tous les gens qui nous écoutent, si Dieu nous donne la vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il a un projet pour nous. Et quand je me lève le matin, je prie à Dieu, j'ai dit, c'est quoi ta projet pour moi aujourd'hui? Et j'essaie de trouver et rentrer dans ce projet.
Et donc vous êtes curieux de savoir ce qu'on a préparé pour vous dans la journée.
Oui, oui.
Et vous accueillez les choses telles qu'elles viennent, même si c'est des choses heureuses ou malheureuses.
Oui.
Pasteur Agop Koudjikian, vous étiez notre invité sur RCF. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous raconter tout cela.
Merci pour votre invitation.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.